بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاهم الإسلام. On avait commencé la semaine dernière, la fois d'avant plutôt, le programme concernant Al-Iman Billah, la foi en Allah, et précisément Al-Iman Bil-Asma Al-Sifat, la croyance du musulman concernant les noms d'Allah Azza wa Jal et les attributs d'Allah Azza wa Jal. On avait expliqué la raison de ce choix, le choix de ce sujet, plutôt que la Sira qui était prévue. On avait annoncé après Ashrat al-Sa'a pour les signes de Qiyama à la fin de Sha'ban qu'on ait démarré la Sira Nabawiya, qui est vraiment un sujet qui nous tient toujours à cœur. Et puis, subhanallah, durant le mois de Ramadan, on a eu l'occasion de développer les sifat Rahman, Rahim, et on s'est rendu compte que cela apporte énormément à la foi, et cela a un impact immédiat qui se vérifie à l'instant dans la qualité des bonnes actions. Pas de la quantité, parce que quand on jeûnait toujours de la même façon. Les salat al-Tarawih, on faisait de la même façon. Mais lorsqu'on prend conscience devant qui on se prosterne et qui est-ce qu'on adore, subhanallah, on donne un véritable sens au terme de ibad. Et lorsqu'on dit que le ibad, c'est at-tadhallul wal-khudu' lillah, adorer Allah, c'est se soumettre totalement à lui. C'est al-istislam lillah, c'est accepter ses ordres, c'est réaliser qu'on appartient à Allah Azza wa Jal. Maintenant, comme on avait expliqué dans la première intervention, si nous n'avons strictement aucune connaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, quelle sera donc notre conception guillemets de notre Seigneur? Si nous avons juste compris qu'Allah est notre Créateur, il donne la vie, il donne la mort, il fait entrer dans le paradis ou il fait entrer dans l'enfer, si ça se limite à ça, on va dire déjà c'est du tawhid. Allah est unique, c'est Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sans le moindre doute, l'iman est là. On ne remet pas en question la présence de foi. Mais si on ne connaît pas les qualités d'Allah Azza wa Jal, on n'aura pas ce husnu dhanni billah. Vous savez ce hadith qudsi dans lequel Allah Rabbul Izzah informe le prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'il informe les croyants, qu'Allah agit avec ses serviteurs en fonction de la conception. Comment est-ce qu'on connaît notre Seigneur? Bien, celui qui connaît, j'allais dire parfaitement, on ne pourra jamais connaître parfaitement Allah Azza wa Jal, mais celui qui connaît Allah Rabbul Izzah en fonction des textes révélés, le Coran et la Sunna, il aura automatiquement husnu dhanni billah, une pensée positive de son Seigneur. Alors qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas vraiment Allah Azza wa Jal, et il y a, astaghfirullah, su'u dhanni billah qui devient envahissant. Il a une pensée, astaghfirullah, négative d'Allah Azza wa Jal, en pensant que ben, tout ce qui m'arrive, c'est un azab, c'est un malheur. S'il m'arrive un problème, si Allah ne m'aime pas, Allah m'a éloigné, je suis maudit ou autre chose. Et cette personne, subhanallah, si elle avait un peu de ilm, un peu de connaissance, on citerait un exemple, seulement un sifat qu'on avait. Non, on n'avait pas eu le temps de développer, c'était prévu pour Saint-Pierre. Une des qualités d'Allah Azza wa Jal qui stipule qu'Allah Rabbul Izzah connaît ce qui est meilleur pour l'homme. Et l'être humain, parfois, à sa conception du bien et du mal, et dans ses projets, on espère obtenir telle chose, ou on fait tout ce qu'on peut pour éloigner telle chose de nous. Mais Allah Rabbul Izzah te donne ce que tu craignais, ou te prive de ce que tu souhaitais. Et la personne qui ne connaît pas Allah, qui ne connaît pas la façon qu'Allah Azza wa Jal agit avec ses serviteurs, il va penser qu'il est maudit, qu'il est malchanceux, que ça arrive qu'à moi, et que malgré mes prières, malgré mes doigts, il m'arrive des problèmes, donc Allah ne m'accepte pas. Voyez les mauvaises pensées qu'il peut avoir sur son Seigneur. Maintenant, même situation, une personne qui connaît Allah Rabbul Izzah, qui connaît comment Allah agit avec ses serviteurs, il va comprendre qu'il y a un bien dedans. « Asa an tuhibbu shay'an wa huwa »« Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum »« Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum » Il y a des fois où on aimerait quelque chose, mais ce n'est pas bon pour nous. Il y a des fois où on a peur, on s'éloigne de quelque chose, mais c'est dans cette chose même, il y a un bien. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait mieux, nous on ne sait pas. Donc la personne qui réalise que tout ce qui m'arrive, ça vient de la part d'Allah, et Allah veut toujours du bien pour moi, même si c'est une situation qui me paraît être difficile à gérer, qui va à l'encontre de ce que j'avais prévu, de ce que je souhaitais, il y a un khair dedans. Et avec ça, imaginez quelqu'un, un greffe, cette connaissance sur Allah Azza wa Jal avec la connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la sirah et de l'histoire des anbiya alayhi wa sallam umuman en général, ben il verra l'application de la sunnat d'Allah, de la façon qu'Allah a dit à ses serviteurs à travers, il va comprendre sa vie à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la vie d'Ibrahim alayhi wa sallam, qui était un des prophètes les plus aimés mais également les plus éprouvés par Allah Azza wa Jal. Hada. Donc, subhanallah, si une personne peut vraiment entrer de plein cœur dans la connaissance religieuse, comprendre le tafsir, étudier le tafsir, étudier la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, connaître Allah azza wa jal par le biais des aqidah sahiha, connaître la vie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cette façon qu'on devient un mu'min kamilul iman. Parce que tu connais exactement où est-ce que tu vas. Et tu connais exactement qu'est-ce qu'Allah attend de toi. Ce n'est pas juste un héritage culturel, ce n'est pas juste des pratiques qu'on hérite de nos parents, de nos grands-parents, ou qu'on a appris à la médersa et qu'on va appliquer. Non, on aura une connaissance parfaite de toutes les situations de notre vie, une lecture de Ulil Absar, de les qawmi ya'qiloun, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont la clairvoyance. Et pour avoir cette clairvoyance, nous essayons de connaître les qualités d'Allah Azza wa Jal, quelques qualités d'Allah Rabbul Izza, afin de donner un sens à notre iman, afin de donner un sens à notre istislam lillah. Je me soumets devant qui? Le Créateur, c'est tout. Mais je dois être conscient que je me soumets également devant le clément, le miséricordieux, celui qui aime pardonner, celui qui peut châtier également, celui qui élève, celui qui rabaisse. Plus on connaît Allah Azza wa Jal, plus notre relation avec lui sera parfaite et basée sur la sincérité. On aura husnul dhanni billah. Donc, ikhwani fillah, à travers l'étude des noms d'Allah Rabbul Izza, on a la possibilité de développer des qualités qu'on ne soupçonne pas, des qualités que nous avons tous besoin et des qualités qui nous font défaut très souvent dans la qualité de nos bonnes actions. Parce que la quantité des bonnes actions, il y est. Si on compare notre Eid al-Adha, notre Bakrid, avec le Eid al-Adha des Sahaba, entre un chameau qu'ils égorgeaient dans le désert, combien ça pèse un chameau? 700, 800 kilos, ça n'arrive pas à une tonne un chameau. Et nous, on achète un bœuf qui pèse 1200 kilos, 1300, une tonne 3, une tonne 4, qui coûte 10 fois le prix d'un chameau. Si on pèse sur une balance, théoriquement, si les récompenses étaient au poids, on a dépassé le sahaba. Mais est-ce qu'on a dépassé le sahaba? Je pense qu'on n'atteint même pas la récompense d'une souillure sous les sabots du chameau de ce sahaba. Parce qu'eux, ils avaient un ikhlas, une sincérité, une dévotion, et ils comprenaient l'esprit de l'amour pour Allah Azza wa Jal. Mais nous, ça nous fait défaut. Donc, parmi les qualités qu'on recherche en connaissant, en essayant de connaître les qualités d'Allah Rabbul Izzah, c'est al-ikhlas. Awwal shay, la plus importante des qualités qu'on doit développer, c'est la sincérité. Parce que, on avait rappelé lors de la prêche du Jum'a, s'il n'y a pas de sincérité, vous pouvez faire le hajj, vous pouvez être un savant, pouvez être, mashallah, quelqu'un qui est muhsin, qui dépense de chemin d'Allah en quantité. Je peux donner 1 million d'euros toutes les semaines, financer tous les projets. À partir du moment où il n'y a pas ikhlas, il n'y a pas sincérité, ce geste, cette bonne action, me précipite, non seulement je n'obtiens pas de récompense, mais cette bonne action me précipite en premier dans le jahannam, nasallallahu alayhi wa sallam. On connaît l'histoire des trois premières personnes qui seront jetées dans le feu de l'enfer, et parmi cela, il y a le savant, le qari. Celui qui a la connaissance des textes et qui, mashallah, maîtrise le Coran. Alors qu'on connaît les récompenses, les vertus pour la connaissance religieuse, jour de Qiyama, ce genre de personne sera amené auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal, qui lui fera reconnaître ses bienfaits. Sur lui, il va demander comment est-ce que tu as utilisé ces bienfaits. Il a dit, j'ai fait telle chose. Et Allah Azza wa Jal dira que non, tu mens. Tu as utilisé ce bienfait pour que les gens disent de toi, alim qari, ou alors quelqu'un de courageux qui a donné sa vie dans le chemin d'Allah, ou quelqu'un de généreux qui donnait en quantité, et ce sera la vérité. Parce qu'Allah Rabbul Izzah sait ce qu'il y a dans le cœur. Et la personne sera jetée en premier dans le jahannam. Les ulama disent, voyez comment est-ce que ar-riya, l'ostentation, c'est un péché grave et c'est un péché destructeur. Khasira dunya wal akhira, qui nous fait perdre notre dunya et notre akhira. Imaginez, j'ai, mashallah, une entrée d'argent intéressante, et je donne la moitié de mes biens dans le chemin d'Allah. Déjà, je entre guillemets, il y a financièrement, il y a une partie que je ne vois plus de ce dunya. Mais le pire, c'est que quand tu donnes une sadaqa, tu attends la récompense là-haut, mais là-haut, tu n'as rien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui perd ce dunya. Donc, la première qualité que nous recherchons en étudiant les qualités d'Allah, Azza wa Jal, c'est Al-Ikhlas. Parce que, subhanallah, à partir du moment où on va connaître la grandeur d'Allah, on va connaître la puissance d'Allah, Azza wa Jal. Umouman, les qualités d'Allah, Rabbul Izza, assurément, quand j'accomplis une bonne action, je vais le faire avec sincérité. Je sais devant qui je me prosterne. Je sais pour qui je suis en train de donner la sadaqa. Je sais les paroles de qui je suis en train de lire. Du coup, même dans ma lecture, mon but ne sera pas d'impressionner les gens. Ce sera vraiment lire de la meilleure des façons Kalamullah Azza wa Jal. Donc, quand une personne connaît Allah, automatiquement, il va ressentir la ikhlas, la sincérité dans ses bonnes œuvres. Hada. Également, parmi les qualités que nous essayons d'obtenir dans l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal, al-khushu, la dévotion. Un hadith, il est stipulé que parmi les petits signes de Qiyamah, parmi les premières qualités que cette umma va perdre, c'est la dévotion. Et c'est que, hatta takadu, il arrivera une époque où, en entrant dans une mosquée, tu trouveras une centaine de personnes en train de prier, ou ala tajidu, tu ne trouveras pas un khashi'a, une personne qui prie avec humilité. C'est une des premières qualités qui quittera cette umma à la fin des temps. Maintenant, on revient vers le même discours. Si on connaît qui est Allah, on connaît la force, la puissance, la beauté d'Allah Rabbul Izza, les qualités qu'Allah a révélées qui nous permet d'avoir une idée de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ce sijda ne sera plus le même que celui qui connaît rien de son Seigneur. Assurément, on va trouver la concentration et la dévotion dans nos bonnes œuvres. On a besoin également, yaqin, la conviction de nos invocations. Combien de personnes, mashallah, lèvent les mains, demandent? Ça peut être ici, ça peut être devant la Kaaba, ça peut être Arafat, ça peut être dans les derniers tiers de la nuit, mais le dua, ça reste des paroles qu'on va prononcer, mais est-ce qu'il y a une conviction, une certitude qu'Allah va accepter mes duas? À partir du moment où on demande sans comprendre, sans connaître à qui j'adresse mes demandes, et sans conviction que celui à qui j'adresse mes demandes est parfaitement capable, subhanallah, de m'accorder tout ce que je souhaite et plus encore, mais on va dire que c'est un dua qui manque de yaqin. Et s'il n'y a pas de yaqin, comment est-ce que vous voulez que les duas aient une véritable puissance? Maintenant, encore une fois, on revient vers la même idée que pour la sincérité et la dévotion. Quand une personne connaît Allah Azza wa Jal et il lève ses mains, il demande à Allah, il a la conviction, Allah est capable d'exaucer, d'accepter les demandes qui nous paraissent, à nous êtres humains, les plus complexes. On avait fait le tafsir de, on avait commencé le tafsir de Al-Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-Mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. On a vu que Allah, Rabbul Izza, il donne deux descriptions dans ce verset. Biyadihi al-Mulk, que la royauté est dans les mains d'Allah. Bas, tout est dans les mains d'Allah. Et le verset, le premier verset de Al-Mulk, se termine par « Wa huwa ala kulli shay'in qadir ». Allah est omnipotent, il est capable de tout. Les mufassirins disent que celui qui se contente d'étudier le premier verset, la première ayah de Tabarak al-Ladhi, subhanallah, il va développer une conviction en Allah Azza wa Jal. Parce qu'il réalise que tout est dans les mains d'Allah, tout. Même ce qui nous paraît être sous la responsabilité de certaines personnes, certains groupes de personnes, on se dit qu'en finalité, ce sont tous des créatures d'Allah et que tout est dans les mains d'Allah. Bas. Et quand on voit la fin du verset, « wa huwa ala kulli shay'in qadir », Allah est capable de tout, ben, tu te rends compte que tu peux mettre tous tes problèmes, toutes tes demandes, toutes tes attentes, et les envoyer à notre Seigneur, et il est capable de les exaucer, d'enlever les problèmes, et de nous faire voir la vérité, et d'apaiser nos cœurs, parce qu'il est « ala kulli shay'in qadir ». Donc on a besoin de la conviction, de nos invocations, et ce qui relie le serviteur à Allah, c'est le dua. « Al-dua huwa al-ibad ». Ça me dit que les invocations, c'est l'acte d'adoration par excellence. Parce que quand je lève mes mains, et je demande, je murmure, d'ailleurs, il est interdit de faire dua à voix haute. Vous le saviez. Le Prophète avait entendu Sahaba une fois demander doua à voix haute. Il a dit au Sahaba, baissez le ton, Allah vous entend. Il n'y a pas besoin de crier. Il ne faut pas penser que si je demande doua fort, oh Allah accepte. Comme ça, je veux dire qu'Allah va accepter plus vite que si je murmure. Non, Allah il t'entend. Que tu le dises en français, en malagasy, en chimaoré, en anglais, en québécois ou en gujarati, même en gujarati, sans le moindre doute, Allah Azza wa Jal entend. Je le murmure ou j'implore dans mon cœur. Dans mon cœur. Que même moi j'entends pas ce que je dis, Allah t'entend. Et Allah est capable d'exaucer. Même si dans notre cas de figure, une personne vous fait du tort et que dans votre cœur, vous êtes en train de maudire la personne, mais ça reste de le cœur, Allah Rabbul Izzah est capable d'accepter cette invocation. Mais subhanallah, on a besoin de créer ce lien avec Allah. Lorsque dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit, « Wa idha sa'alaka ibadi anni » La suite, « Fa'inni qarib » La réponse, elle est immédiate. Si tes serviteurs te demandent, te questionnent à propos de moi, informe-les. « Fa'in fa » Le « fa », ça montre que subhanallah, il y a une conséquence directe. « Fa'inni qarib » Sachez que je suis proche. « Ujibu da'wat ad-da'ida » Et je réponds à l'invocation de celui qui demande, à celui qui me demande. À travers ce verset, on doit comprendre que quand on lève les mains, ben Allah est proche de nous. Allah nous entend, Allah est capable d'exaucer. C'est un lien que j'ai besoin de créer. Parce que ce dunya, ce monde, est un monde d'épreuves. Et à chaque moment de difficulté, d'épreuve, je dois être capable de m'orienter vers Allah. C'est une des sagesses des ibtila. Une des sagesses des épreuves que le croyant prenne l'habitude de s'orienter tout de suite vers Allah, quelles que soient les difficultés, et non pas s'orienter vers les gens, non pas chercher les asbabs, mais s'orienter vers celui qui crée les situations et qui dénoue les situations. Maintenant, pour que ce lien soit sincère, réel, il faut qu'on connaisse qui est Allah Azza wa Jal. Comment allez-vous invoquer un Seigneur que, à propos duquel vous n'avez aucune idée? Et que peut-être même vous pensez qu'Allah, il ne fait que punir si on ne l'obéit pas. Faites votre prière, sinon Allah y envoie un azab. Paye ta zakat, sinon Allah va reprendre tes biens. Mais si notre conception de notre Seigneur est basée sur l'angoisse, la peur, on n'avancera pas. Comment trouver l'humilité, l'amour dans les doigts, dans les invocations? Donc, ikhwani fillah, on a grandement besoin, c'est un rappel de ce qu'on avait dit l'autre fois, on complète, on a grandement besoin de connaître notre Seigneur. Cela nous permettra, entre autres, de connaître Allah, mais également d'acquérir des qualités intérieures qui nous fait vraiment défaut à notre époque. Quand on donnait l'exemple, je n'avais pas complété avec l'Udhiyat tout à l'heure, ben, l'apparence est présente. Le côté extérieur, il y est. Il y a des gens qui vont faire le Hajj toute leur vie, tous les ans. Il y a des gens, tous les ans, machin, ils vont au Hajj. Vous faites le visa, vous voyez, il y a le visa 2014, 2013, 2012, 2011, machallah, Hajj. Sahaba. Combien de hajj ont fait? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme hajj, un hajj de sa vie. Un hajj, c'était le pèlerinage de Dieu. Donc, astaghfirullah, excusez-moi ce que je veux dire, sur le papier, si je regarde le nombre de hajj que j'ai fait, personne n'a fait 29 hajj, le Prophète a fait un hajj, ou Abu Bakr a fait, je ne sais pas comment Abu Bakr a fait, il l'avait fait en l'an 9, et puis avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement qu'il était calife, allez, on va dire, il était calife 2 ans et demi. On va dire que, à vérifier, il aurait fait 4 hajj, d'accord? Est-ce que mes 29 hajj, on va dire que c'est supérieur donc parce qu'il a fait que 4? Abadan, wallah. Je prends mes 29 hajj, ça ne vaut pas un pas qu'il a fait à Mina ou à Arafat. Il y avait une qualité, il y avait une connaissance parfaite d'Allah Azza wa Jal qui lui permettait d'atteindre des hauts degrés de spiritualité à travers le ibadah. Également, le fait de ne pas connaître Allah, quelles sont les conséquences? Le fait de ne pas connaître Allah, on a vu concernant notre conception de notre Seigneur, mais également dans l'action qui se répète au quotidien, Imad al-Din, le pilier de la religion, la salat, ben, dans notre salat, subhanallah, si on n'arrive pas à trouver ce qu'on avait dit tout à l'heure, la dévotion et la relation avec Allah, on perd énormément. Et il y a une frustration parce que quand on voit, on entend que le prophète alayhi salatu wassalam dit que la fraîcheur de ses yeux c'est la prière. En toutes circonstances, le prophète trouvait le bonheur à travers la salat et que nous on ne le trouve pas. On ne ressent strictement rien quand on prie. On se dit que vraiment il y a un gros décalage, il y a un manquement. Également, lorsqu'on analyse les textes au moment de mourir, le croyant qui reçoit la visite de l'ange de la mort qui lui annonce les bonnes nouvelles qu'Allah est satisfait de toi, c'est comme si qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'Allah aime le mu'min. Est-ce qu'il faut attendre le moment de mourir pour réaliser comment Allah nous aime? Imaginez que depuis maintenant on connaissait les qualités d'Allah, on connaît comment Allah nous aime en étudiant Rahman, Rahim, Wadud et Sir Sifan. Ben, quand on se prosterne, on sait qu'on se prosterne devant la personne qui attend, qui nous attend, qui n'a pas besoin de nous, mais qui attend que son serviteur se prosterne devant lui pour lui combler de bienfaits, pour lui accorder des hasanats. Donc, vous vous précipitez, on se précipite pour se prosterner devant Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il s'agit de se réveiller le matin, Salatul Fajr, qui est très tôt, ben c'est avec une motivation qu'on quitte notre lit, on vient. C'est pas on traîne les pantoufles, on dit ouais, il faut aller au namaz, la prière est tôt, et ainsi de suite. Au contraire, on dit que Allah nous aime et Allah attend, sans qu'il ait besoin de nous, encore une fois, mais Allah attend que le serviteur vienne, se prosterne devant lui, il lève les mains, il invoque pour qu'Allah lui accorde. Donc on va le faire avec, subhanallah, avec ouverture de sadr, une poitrine ouverte et avec contentement et motivation. Maintenant, imaginez que notre relation avec Allah était, et ça doit être comme ça, mais est réellement basée sur cet amour. Assurément, dans les bonnes actions, on répondrait toujours présent, sans distinguer Ramadan, première décade de Dhul-Hijja, grande nuit, ce qu'on appelle concept grande nuit ou autre chose. Toute notre vie, on comprend que « قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ » wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est là l'objectif. Et c'est là, ça c'est le synonyme de istislam lillah, la soumission totale en Allah Azza wa Jal. Si dans une situation de ma vie, face à certains actes d'adoration comme le Coran ou l'accomplissement des prières, je suis conscient et je suis ferme sur l'importance de faire ces bonnes œuvres. Maintenant, si on analyse d'autres situations de la vie, je donne un exemple, c'est des exemples que on n'aime pas trop entendre, mais si on ne le dit pas, jour de Qiyama, on aura à répondre. Maintenant, si on pose la question, mais est-ce que la tenue vestimentaire de ta grande fille de 15 ans, est-ce qu'elle est correcte? Je dis que oui, mais elle est libre. Non, il n'y a pas question qu'elle est libre. Est-ce qu'en tant que père, papa, walid, wali al-amr, comme on dit, est-ce que tu as donné les directives? Est-ce que tu as expliqué à ton épouse ou à ta fille que, subhanallah, la tenue de la femme musulmane doit être comme ça? La pudeur pour la femme musulmane, c'est de cette façon. Les cheveux doivent être couverts. La femme ne se parfume pas dans la mesure du possible. Hein, elle se préserve pour son mari. Et que ça, c'est vraiment une manifestation. Et puis, il y a le retour aussi. Notre amour pour notre épouse, notre comportement, ainsi de suite. Maintenant, si on voit que d'un côté, on n'est pas prêt à faire concession, on dit que non, ça c'est autre chose, ça veut dire que tu ne t'es pas soumis à Allah Azza wa Jal. Le istislam, c'est le sens du verset « Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » que j'appartiens à Allah Azza wa Jal. Que ma vie c'est pour Allah, mes jours c'est pour Allah, mon temps c'est pour Allah, mon corps c'est pour Allah, ma jeunesse c'est pour Allah. D'ailleurs, le jour de Qiyama, le Prophète dit que personne ne quittera le mawqif, personne ne quittera la terre du mahshar, de résurrection, sans répondre à ces cinq questions. Et voilà les questions. À propos de ton temps, à propos de ta jeunesse, à propos de tes biens, qu'est-ce que tu en as fait? Pieux ou pécheur? Pareil. Ça, c'est pas une question en rapport avec tes bonnes actions et tes péchés. On parle pas encore du hisab. On parle des bienfaits qu'Allah a donnés. Les savants disent que chacun se prépare dès maintenant à la réponse. Et qu'on ne se cache pas derrière des raisons que, si on creuse bien, on se rend compte que c'est un désir personnel. C'est un épanouissement, entre guillemets. On veut un idéal, mais cet idéal ne correspond pas à l'idéal du Akhira, l'idéal qui nous permet d'obtenir le contentement d'Allah Azza wa Jal. On a besoin de se remettre soi-même en question. Pas besoin que les gens ils nous font des machins et tout. Nous-mêmes, on doit réaliser, on a assez de connaissances pour savoir dans quel domaine on est dans le droit chemin, dans quel domaine on a encore une marge de progression. Et ikhwan fillah, tout ça, ça s'obtient de la meilleure façon qu'on peut faire entrer ces principes dans notre cœur, c'est connaître Allah. Plus on aime Allah, plus on sera prêt à se soumettre à lui. Moins on connaît Allah, moins on éprouve le besoin de se soumettre à lui. Plus on connaît Allah, ben on se détache de tout ce qui est dunya et on se rattache à Allah Azza wa Jal. Moins on connaît notre Seigneur, plus on donnera dans notre cœur de la place pour les choses du dunya et moins l'amour d'Allah Rabbul Izza va pénétrer le cœur. Nous avons dit également, bon, en parlant de l'amour pour Allah, si on arrive un jour à développer l'amour d'Allah dans notre cœur, comment seraient nos prosternations? Comment serait notre tawaf? Combien de personnes, et ça c'est des questions qui reviennent, quand on fait tawaf, quand on ne sait plus quoi dire, on dit quoi? Tu fais tawaf autour de la Kaaba, tu t'ennuies? Personne ne fait tawaf, et ce GSM, il parle, il raconte des histoires. Personne fait tawaf, il filme, fait selfie dans la Kaaba. C'est quoi tout ça? Les cœurs sont vides. Les cœurs sont à Mecca devant la Kaaba, mais les cœurs sont vides d'Allah. Il n'y a pas la présence d'Allah dans le cœur, parce qu'il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucun amour. Si ça ne brûle pas d'amour pour Allah dans le cœur, ben on peut aller dans les meilleurs des endroits, on ne va pas progresser spirituellement. Donc, celui qui a de l'amour pour Allah dans son cœur, on le met devant la Kaaba, il fait le tawaf, subhanallah, quelle joie, quel bonheur indescriptible, quel contentement il va connaître, alors que celui qui ne connaît pas Allah, ben, il va suivre le groupe, il va chercher un livre, il faut lire tout ça depuis la première page jusqu'à la dernière page, et après, sentiment du devoir accompli. Et après, on se rase la tête, inchallah, il y aura les récompenses, sans le moindre doute. Mais est-ce que ça m'a permis de faire un bon? Parce que dalil ala al-qaboul, la preuve que ça a été accepté, c'est al-amalu salihu ba'daha. Hadith stipule que quand une action est acceptée par Allah, la preuve c'est qu'après la bonne action, tu restes dans le droit chemin. Tu continues, tu avances. Allah te donne tawfiq de progresser. Maintenant, sur retourne-moi hajj, retourne-moi umrah. C'est pareil, c'est que certainement j'ai eu les récompenses promises, mais spirituellement, je n'ai pas fait un bon. Et on a besoin de faire des bons. On est tellement éloigné, on a besoin de faire des progrès, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Parce que si on ne se rapproche pas d'Allah, l'ange de la mort se rapproche de nous, jour après jour. Et quelle situation catastrophique de quitter ce dunya sans avoir éprouvé l'amour pour Allah dans notre cœur. Quelle catastrophe que de quitter ce dunya avec des péchés dans notre livret de compte. Les savants disent que la pire des morts, c'est lorsqu'on enterre une personne avec ses zunoubs, avec ses péchés. C'est-à-dire que ces péchés-là, khalas, c'est avec lui dans la tombe. Et quand on le pose, ses péchés sont avec lui. Et il va les retrouver, il va avoir les conséquences. Et quand est-ce qu'une personne meurt avec des péchés? Est-ce qu'un croyant peut dormir ce soir en connaissant pertinemment qu'il a de se livrer de compte des péchés? Il ne voit pas, il ne connaît pas, mais il sait qu'il a fait telle erreur et qu'il n'a pas demandé pardon sincèrement. Ça, c'est inconcevable. C'est pas possible, ça. On ne peut pas dormir en étant conscient que, voilà, j'ai dans mon passif tel péché, je n'ai jamais demandé pardon. Si l'ange de la mort reprend ton âme ce soir, c'est khassar, la pire des choses, que d'être enterré avec ses péchés. Mais quand on connaît Allah, quand on a l'amour pour Allah, ben on ne laisse pas les péchés dans le niveau de compte. Et on a espoir, on sait qu'Allah est Ghafur Rahim, Allah est capable de tout pardonner, on va en permanence rechercher le contentement d'Allah. Donc je résume, on a besoin d'obtenir la piété, on a besoin de développer la sincérité, l'ikhlas, on a besoin de développer l'istiqam, la fermeté. On a parlé de fermeté tout à l'heure, la personne revient du hajj, il retourne de ses péchés. C'est qu'il n'y avait pas le fond à cette bonne action. Donc pour obtenir la fermeté, istiqama, après le mois de Ramadan, après le hajj, il faut connaître notre Rabb. On connaît notre Seigneur, ben on l'adore toute notre vie, parce qu'on sait que c'est un cheminement vers lui jusqu'à la mort. Et la mort, c'est notre délivrance. Même ta conception de la mort va changer. Quelqu'un meurt parmi tes proches, ça ne va pas être la catastrophe, ça ne va pas être la fin du monde, ça ne va pas être une dépression ou autre chose. Non, cette personne est retournée vers son Seigneur. Il est en train d'obtenir les récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quelqu'un qui connaît Allah, qui connaît la sunna d'Allah Azza wa Jal. On a besoin également, parmi les qualités qu'on va essayer de développer en étudiant Allah, halawatul iman, la douceur de la foi, c'est éprouver du bonheur. Notre frère, vous connaissez le frère qui dit que du bonheur? Tout le monde le connaît, que du bonheur. Notre frère, gendarme, qui est parti au hajj cette année, monsieur, que du bonheur, il est connu sous ce nom, mashallah. Mais le bonheur, que du bonheur, c'est quand tu pries, tu éprouves du bonheur. Quand tu jeûnes, tu as faim, tu as soif, tu as chaud, tu éprouves du bonheur. Quand tu donnes un zakat, tu donnes un pauvre, tu donnes une personne démunie 500, 600 euros, c'est pas que ça te fait mal le cœur, c'est mes économies qui s'en vont. Tu dis ça, je suis en train de purifier mes biens et je suis en train de construire mon islam. Je suis en train de renforcer un pilier annuel. Et oh Allah, merci de me donner tawfiq, de m'accepter pour faire ce pilier. Subhanallah, c'est un faraz, une obligation. Le bonheur, c'est dans le véritable bonheur. Le halawatul iman, c'est à travers les bonnes actions. Mais ça, il faut atteindre un certain degré pour que le cœur soit attaché de cette façon aux bonnes œuvres et non pas le prendre comme une routine ou une obligation. Hada. Arriver à un degré, annallaha yakfik. Quand on dit hasbunallahu wa ni'mal wakil, c'est le doigt de beaucoup de prophètes. Que Allah me suffit. Pour arriver à cette situation que tu dis Allah me suffit, c'est que tu es capable de mettre de côté le dunya et tous les asbab. Et te dire que si Allah est avec moi, Allah me donnera sa nusra. Ça c'était le manzila des prophètes alayhim salatu wa salam. Il n'y avait pas plus heureux et plus tranquille que Ibrahim alayhi salam. Même dans les épreuves avec son fils ou lorsqu'il était jeté dans le feu. Il n'y avait pas plus quelqu'un de plus tranquille, qui éprouvait plus de sérénité que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il était à Uhud, même lorsqu'il était à Taif, même lorsqu'il a vécu les difficultés avec les hypocrites, quelles que soient les situations. Et ainsi de suite, tous les prophètes, parce qu'eux, ils avaient intégré le sens de Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah me suffit. Même, et là, voyez les hadiths, les ayats, c'est un grand puzzle qui représente notre religion. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique Iman, Ibn Abbas dit, sache que si l'humanité se réunissait pour te faire du bien, ils ne te feront rien de plus que ce qui a été déjà écrit. S'ils se réunissent pour te faire du tort, ils ne te feront rien de plus que ce qu'Allah a déjà écrit. Yani, n'aie pas peur. N'aie pas peur des gens. Ce qui arrive, c'est de le tardir. Ce n'est pas écrit pour toi, ce n'est pas écrit contre toi, ça n'arrivera pas. Et n'attends pas trop des gens. Ce sont des intermédiaires. Allah peut les utiliser pour t'aider ou que ces gens ne t'apportent strictement rien. Ta confiance doit être en Allah Azza wa Jal. Ça, c'est des hauts degrés de iman. Ça, c'est les plus hauts degrés de iman qui nous fait atteindre l'ihsan. Pour cela, encore une fois, la clé, c'est connaître Allah Azza wa Jal pour que ce cœur soit orienté vers lui. Hada. On termine avec la conclusion. Les savants disent « Biqadri ilmika bi sifatillah » En fonction de ta connaissance, plus tu connais les qualités d'Allah, ziyadatul iman, tu auras plus de foi en Allah. Al-ihtimam bil a'mal as-salihah, tu donneras plus d'importance aux bonnes œuvres, parce que tu sais pour qui tu accomplis ces bonnes actions. Al-khushu' wa at-tadhallul wal khudu', la soumission totale à Allah à travers les bonnes œuvres. Ash-shu'uri bi khatari adh-dhunub, tu vas ressentir la gravité des péchés. Quand tu connais qui tu désobéis, quand on connaît la grandeur, la puissance d'Allah, on se dit que comment puis-je oser désobéir à mon Créateur? Donc, du coup, les péchés vont devenir quelque chose d'horrible, d'inconcevable pour toi. Et kullama naqasa ilmuka billah, moins on connaît notre Seigneur, ben, on va voir une faiblesse de iman. Qillatul ihtimam bil a'mal salihah, peu d'intérêt aux bonnes actions. Peu de dévotion de nos prières, même si on les fait régulièrement, il n'y aura rien qui va ressortir de ces prières en termes de spiritualité. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Normalement, quand tu sors d'une prière, tu es fort spirituellement. Les péchés, ils sont autour de toi, tu t'en éloignes parce que tu t'es renforcé par la prière. Mais si après une prière, on se rend compte qu'on est pareil, ça veut dire que cette prière-là était dénuée de khushu', de dévotion. Donc, quand on ne connaît pas Allah, ben, automatiquement, il n'y a pas de concentration. Il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de vie dans la salat, même si elle est accomplie. Et ça, c'est le dernier point, al-istihanatu bidhunub. On va déconsidérer les péchés. Quand on parle, attention, ça, c'est pas bien, c'est haram. Non, pas grave, ça. Ça, c'est pas un péché grave. Allah, il pardonne. Le cœur est propre. Ça, et toutes ces excuses que Shaitan met dans notre cœur pour nous déculpabiliser face au péché. Il y avait une citation que j'avais reprise il y a quelque temps dans Riyad al-Salihin. Ce n'est pas un hadith, c'est une citation d'un sahaba, on appelle ça mawquf. Je n'ai plus le nom du sahaba en tête. Il dit qu'il parlait des tabi'in. Il parlait aux tabi'in. Il dit que vous accomplissez des péchés que vous considérez comme minimes. Alors que nous, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, c'était tout simplement inconcevable de faire de tels péchés. Il parlait à qui? Aux tabi'in, aux descendants des sahaba. Il dit, vous faites des choses, pour vous, ce n'est pas grave, ce n'est pas grand-chose. Nous, à notre époque, quand on vivait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était inconcevable, on les considérait ça comme des péchés graves, envahissants. Donc, pour nous montrer le décalage de l'iman, et en commentateur de Riyad al-Salihin, d'une parole magnifique, il dit, en fonction de ton iman, tu reconnaîtras la gravité des péchés. Le moindre péché, le moindre écart de comportement spirituel, tu vas culpabiliser. Mes chers frères en islam, le problème c'est qu'on ne culpabilise pas quand on fait un péché. Si au moindre écart, il suffit d'un regard, mais de le jouer le regard, pour nous c'est normal parce qu'on vit dans un pays, on finit par cautionner plein de choses parce que le contexte est comme ça. Ah ben dan, wallah, au contraire, plus il y a des fitnas, ben résister aux fitnas, ça t'apportera encore plus de récompenses. Donc si une personne s'est laissée aller une seconde, ben voyez ce petit écart qui a duré une fraction de seconde, hein, ben normalement il doit éprouver beaucoup de remords, il doit demander beaucoup d'istighfar tauba jusqu'à ce qu'intérieurement il est conscient, il a la sensation qu'il était pardonné par Allah. Il ne peut pas vivre avec ça. Ça c'est quand le iman atteint un haut degré. Allah Rabbul Izzah donne la possibilité d'avancer dans ce cheminement vers Allah Azza wa Jal par l'étude des asma, des noms et des qualités d'Allah Rabbul Izzah. Allahumma amin. 5 minutes, parce qu'on a dit 30 minutes. On est déjà 34. Bon, alors, on va garder le quota 40, hein, comme la saison 2014. Non, parce que là, on est une période vraiment importante. Est-ce qu'il y a, Mouli Mohamed a parlé de la première décade? Quelqu'un qui était là hier soir, lundi? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on va être concis et trouver le texte qui nous permet de tout comprendre, texte, hadith qu'on connaît, dans un hadith de Saïd ibn Jubayr. Non, c'est pas Saïd ibn Jubayr. Un hadith de Ibn Umar, radiallahu anhu, il dit, « An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal, ma min ayyamin a'azamu inda Allah, wa la ahabbu ilayhi l'amalu fihinna min hadhi l'ayyami l'ashr. » فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد. Le hadith d'Ibn Umar dit que le prophète a dit qu'il n'y a pas des jours dans l'année où les bonnes œuvres sont aussi aimées et appréciées par Allah que durant ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul-Hijja. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous conseille de faire beaucoup de dhikr, entre autres, at-tahlil, dire la ilaha illallah, at-takbir, dire Allahu akbar, at-tahmid, dire alhamdulillah, et d'autres bonnes actions. Les savants disent que ça c'est le takbir, qu'il est mashrou', et ça on aura l'occasion d'en parler peut-être avant le 9e. Il dit que d'une façon générale, le prophète alayhi salatu wassalam encourage le croyant à multiplier les bonnes actions, mutlaqan. On ne peut pas dire qu'il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Non, il n'y a pas une action particulière à faire dans la première décade. Si ce n'est le udhiyah, bien sûr. Le qurbani qui couronne cette première décade lors du 10e de l'Hijja. D'une manière générale, on doit essayer de profiter au mieux de chaque jour de l'Hijja. Aujourd'hui, c'est la première journée qui passe. Théoriquement, une bonne journée, et Allah seul connaît si c'est accepté, on a espoir, une bonne journée de l'Hijja remplie de bonnes œuvres, c'est déjà une journée où on a jeûné. Saum, nafil. Une journée où on a pu commencer avec tahajjud, qiyamul layl, et enchaîner avec la salat de fajr en jama'a, en congrégation. Et qu'on a pu enchaîner avec soit dhikrullah, soit lecture de Qur'an. Et qu'on a pu enchaîner avec shuruq, la salat ishraq, 10 minutes après le lever du soleil. Et que durant cette journée, on a pu, là c'est l'accomplissement des bonnes œuvres, mais quand on dit faire de bonnes œuvres, ça veut dire également, bien sûr, ne pas faire de péché, pas durant cette période. Tout comme on fait attention de ne pas faire de péché durant le Ramadan, on doit donner autant d'importance. Une journée où j'ai pu contrôler ma langue, contrôler mon regard, faire en sorte que je n'accomplis pas les péchés ou les écarts de comportement que je fais en temps normal. Une journée où j'ai pu lire le maximum de fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, mutlaqan. Ça c'est pendant les 10 jours, à n'importe quel moment. Et ensuite, l'autre degré, l'autre niveau de takbir et tashriq, ça c'est le Fajr Arafat jusqu'au 13 Asr. Ça on lit après les salats. Mais dans la première décade, depuis le moment où on trouve la lune, il était de l'habitude des sahaba de lire beaucoup de fois le takbir et tashriq. Tout seul, à voix basse. Mais on essaie de garder cette habitude que ce dhikr soit permanent. C'est 10 jours de l'année. On essaie de garder le maximum de temps, on essaie de, subhanallah, combler chaque instant où on est silencieux, on est dans les embouteillages, on attend pour acheter le pain, on est en train de descendre les escaliers, on est takbir et tashrik. À voix basse, même si vous faites dans le cœur, khair wa ni'ma, il n'y a pas de problème si on ne veut pas que les gens nous entendent, mais on essaie de meubler chaque instant possible avec le takbir et tashrik et être appliqué dans les bonnes œuvres. Alors parmi les actions qui sont sunnah ou alors mustahab, jeûner les 9 jours. Du premier jusqu'au 9e inclus. Il est mustahab, dans la mesure du possible. Deuxièmement, être sincère de tout ce qu'on fait, bien sûr, ne pas dire aux gens que je jeûne. On avait expliqué ça hier, on va pas mettre dans le statut Facebook, aujourd'hui, 4e jour de jeûne, c'est bien, spirituellement, j'avance. Autant ne pas faire. Donc quand on fait tout ce qu'on fait, on fait avec ikhlas, avec sincérité. Al-muhafadatu ala salat, bien sûr, rester ferme dans les prières, les namaz faraz, et les nafil, qu'on a dit tout à l'heure, tahajjud, shuruq, et ainsi de suite. Le dhikr, comme on vient de dire. Bon, après, il y a le summum, c'est le hajj, mais ça, bon, on ne va pas en parler, on va pleurer. Et le udhiya, si on a les moyens, le sacrifice rituel. Et faire attention à l'ostentation et d'une manière générale, au péché. Donc les vertus, en général, on les connaît. Maintenant, quand on a dit mutlaqan, d'une manière générale, faire de bonnes œuvres. Mais quelles sont les bonnes actions que, subhanallah, je peux faire des actions que normalement on peut faire toute l'année, mais je vais essayer de donner encore plus d'importance durant cette première décade. Alors, parmi ces points-là, on a un ami, mashallah, un cher qui nous a envoyé Tina Siha, dit parmi les choses qu'on peut essayer de mettre en pratique, c'est de lire tous les matins, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shayin qadir, 100 fois. Ça, c'est un dhikr qu'on doit essayer de faire yaoumiyan, tous les jours, au moins 100 fois par jour. Si on peut faire plusieurs séquences de 100 fois, alhamdoulilah, c'est encore mieux. Car, dans un hadith, il dit que celui qui le lit 100 fois, il a en récompense l'équivalent, c'est comme si qu'il avait affranchi 10 esclaves. Allah Rabbul Izzah lui accorde mi'a hasana, 100 récompenses. Wa muhiyat anhu mi'a sayyi'a, et 100 péchés sont pardonnés. Il y a un savant qui explique que, imagine que tu as lu ça tous les jours, 100 fois. Ça prend 12 minutes ou 15 minutes maximum. Autant que ça prenne 15 minutes, c'est mieux. On le lit posément et tout. Mais imagine, tu lis ça tout le temps, tous les jours. Et tous les jours, il y a 100 zunoubs qui sont enlevés de ton livret de compte. Subhanallah. Au bout de 10 jours, ça te fait 1000 péchés enlevés. Mais le jour de Qiyam, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que, subhanallah, peut-être qu'une des meilleures actions que je faisais dans mon vivant, c'était de lire 100 fois ce dhikr yaoumiyan. Idéalement, c'est de le lire le matin. C'est de le lire le matin. Donc, on continue en termes de récompense. Qu'est-ce qu'il y a 100 péchés qui sont effacés. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. Et Allah Rabbul Izzah lui garantit la protection contre le diable, shaitan, jusqu'au soir. Certains savants disent également qu'il n'y a pas meilleure protection contre sihr, la sorcellerie, tout ce qui est du monde paranormal. D'il y a 100 fois ce dhikr le matin, c'est حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ, une protection contre shaitan. Celui qui lui dit, Inch'Allah, il aura protection contre tout ce qui est mauvais. Donc, ça nous protège de notre vie de 24 heures, mais spirituellement, mashallah, on atteint de très hauts degrés, on a énormément de récompenses. Donc ça, si on peut commencer ce soir avant de dormir, et demain, on essaie, après Fajj, ça prend 10 minutes, on reste assis, on essaie de mettre ça en pratique, mashallah, ça nous sera profitable durant cette première décade. Parmi les conseils, les actions qui existent tout le temps, qu'on peut essayer de mettre en pratique, « Man qala hina yusbihu wa hina yumsi, subhanallahi wa bihamdihi mi'at marra, subhanallahi wa bihamdihi. » Bas, on essaie de le lire 100 fois. « Lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdhali mimma ja'a bih, illa ahadun qala mithla ma qala lahu, non, mithla ma qala, aw zada alayh. » Rapporté par Muslim, celui qui... En une journée, il lit 100 fois Subhanallah wa bihamdi. Le jour de Qiyama, personne n'aura amené de meilleure action que ce dhikr-là. Mis à part celui qui va en lire autant ou plus de 100, 300, 1000 fois. Donc ça également, Subhanallah wa bihamdi. C'est un dhikr qu'on peut essayer de lire, de mettre en pratique durant cette première décade. Ensuite, là, il y a une petite photo très intéressante. C'est un seul genre d'affiche. Si quelqu'un peut faire une mise en page, on peut afficher dans une masjid, c'est bien. Il y a les actions qu'on peut faire. Bon, c'est en arabe, donc il y a une nécessité de traduction. Mais il n'y a pas besoin de grande traduction. As-salah, azkar, déjà on connaît l'équivalence. C'est quel est notre champ d'action, notre champ de bonne action qu'on doit essayer vraiment de renforcer durant cette première décade. Je dis dans l'ordre, azkar al-azkar, les dhikr du matin, du soir, régulièrement. Qiyamul layl, tahajjud, al-muhafaza ala salat ma'al jama'a, prier à la mosquée en jama'at, as-salat fi waqtiha, ou au moins faire nos prières à l'heure. La prière de ishraq, la lecture du Qur'an, mémoriser quelques versets tous les jours dans la mesure du possible. Essayer de compléter au moins un khatm al-Qur'an. Ça ne veut pas dire qu'il est sunna de faire un khatm al-Qur'an dans la première décade. Si je dis ça s'appelle l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut faire un khatam dans la première décade. On ne va pas jusque-là. Mais si je peux lire un maximum, quitte à compléter, mashallah, ce sera une action énorme. Et sachant que c'est la période où Allah aime le plus voir le croyant dans les bonnes actions. La sadaqa. On fait le niya à partir du premier dhul-hijja. Tous les jours, je donne une sadaqa. C'est pas tu donnes 50 euros tous les jours. Bon, si tu donnes, alhamdoulilah, même 1 euro. Tu vois ton ami Guy Noël, par exemple. Même Guy Noël refuse les temps. 1 euro, 2 euros. Hein, il a refusé aussi. D'accord, je ne sais pas comment. Donc, mettez une petite pièce en sortant de la masjid. Yawmiyan, un sadaqa. Ça ne va pas changer le monde, mais c'est une bonne action. Et Allah Rabbul Izzah regarde les bonnes actions du croyant en cette période, dans ces 10 jours de l'année. Al-amru bil ma'ruf, ordonner le bien, dans la mesure du possible, en fonction de notre connaissance, et interdire le mal, là aussi, avec sagesse, en fonction de notre connaissance. Ihya sunnatus siwak. Ihya ou sunnatus siwak. Essayer de mettre en pratique une sunna qui est le miswak. Alors, parfois, on a des stocks de miswak à la maison, encore sur emballage plastique, sous vidé, on n'utilise pas. Peut-être c'est le moment d'en déballer un. Si vous n'en avez pas, j'en ai en quantité, machallah, si quelqu'un qui en a besoin. Je ne vends pas, hein, je donne si quelqu'un en a besoin. Et peut-être mettre en pratique cette sunna. Avec niyat que ben, Allah, Rabbul Izzah, déjà, du manière générale, aime voir le croyant se brosser les dents. J'aime pas le terme brosser, se nettoyer la bouche avec le siwak. Ben, c'est la période où je vais mettre cette sunna en pratique. As-suyam, jeûner, comme on a dit. Iftar us-sa'im. Tu sais que quelqu'un a jeûné durant cette première décade. Ben, donnez-lui quelque chose pour la rupture du jeûne. On aura les récompenses. Birrul walidain. L'obéissance envers les parents. Plus encore. Ça, c'est une des actions les plus aimées par Allah. On s'efforce. Enfin, les actions qui existent déjà. Mais on essaie de les faire au plus souvent possible et au mieux. On dit le premier décade, tous les jours on rend visite à ses parents. Pas pour aller manger chez eux. C'est pas qu'on se fait inviter tous les jours. Ça va devenir plus compliqué pour eux. On va rendre visite. Avec muhabba, on apporte quelque chose, on obtient un sourire. On obtient un sourire de sa maman ou de son papa. Ça, c'est ni'ma min Allah. Salatul Rahim, d'une manière générale, entretenir les liens de parenté. Faites une invitation. Invitez les gens, les frères, les soeurs, les machins à la maison. Un salih. On est cousins, n'oublie pas. Fais une invitation, on vient manger, ça renforce le muhabba. Tout ça, ikhwani fillah, c'est des actions que les sahaba ils faisaient tout le temps. Ben, on essaie de. Là, c'est comme si on essaie de condenser tout ce qu'on peut faire. On essaie de remplir cette première décade de bonnes actions. Al-istighfar, demandez istighfar. Al-istighfar lil-walidain, demandez pardon à Allah pour nos parents. Ça, c'est une action qui est aimée par Allah Azza wa Jal. Al-istighfar lil-muslimin wal-muslimat, demandez pardon à Allah pour l'ensemble des croyants. Un hadith qui est magnifique, qui dit que celui qui demande pardon sincèrement pour les croyants et les croyantes, ben Allah lui accorde une part de récompense pour chaque croyant et chaque croyante. Hadith. Adib, comment Allah peut nous accorder quand on demande pour les autres. Al-mashyu bil-jana'iz. On peut dire que ça c'est plus. Ça c'est en circonstance, s'il y a un mayette, on essaie d'être présent. D'accord. Idhal al-sururi, je découvre en même temps que vous, idhal al-sururi ala qalbi al-muslim. Contenter le cœur d'un croyant. Ça, c'est une action ajib, ça. Soit par un hadia, ou une bonne parole, ou même un sourire. Et des fois, vous voyez quelqu'un, il fait salam, il sourit, ça met de la joie dans votre cœur. Et vous voyez même personne, il regarde avec un regard, voilà, ou vous voyez le visage que la personne est en colère, commence à avoir des doutes. Est-ce que je l'ai vexé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ou alors, ça vous met de mauvaise humeur. C'est comme si qu'il y a des ondes négatives qui vous transmet. C'est agaçant. Vous commencez une journée, vous voyez quelqu'un qui vous fait une tronche, pas possible. C'est agaçant. Donc, ça peut être par un sourire, ça peut être, ce qui est le plus économique, monsieur Margie, ça peut être par une parole, ça peut être par un geste, par un cadeau ou autre chose, faire rentrer la joie dans le cœur d'un frère en islam. Tafaqqud, ahwal al-fuqara. S'il y a des gens pauvres, nécessiteux de notre entourage, essayez de les aider. Qadwa ud-dayn, c'est quelqu'un des dettes. On essaie d'aider ces personnes de cette façon. Il a réalisé, rendre visite aux malades. Rendre visite aux malades. Faire salam. Faire salam au maximum de personnes. Faire beaucoup de doigts, beaucoup d'invocations. At-tabassum fi wajhi akhik. Souriant. Avec les messieurs, si on est un monsieur. Et avec les dames, si on est une dame, bien sûr. Qu'il n'y ait pas de confusion. As-sabru, être patient dans toutes circonstances. Prendre sur soi. Kadhumul ghayd. Contenir sa colère. S'il y a des moments où on est en colère, on dit que non, je garde ma colère pour Allah Azza wa Jal, pardonner à son prochain. C'est des actions qu'on connaît. C'est des actions qui font partie des a'mal ou salihah, des bonnes actions du quotidien du musulman. On essaie de les condenser et de les développer au maximum durant cette première décade de Dhul-Hijjah, qu'Allah Azza wa Jal nous accepte durant cette première décade et nous accorde la possibilité de nous rapprocher de lui et qu'Allah donne la possibilité d'accomplir des actions que Allah Azza wa Jal il sera satisfait de nous lorsque nous serons dans ces a'mal salihah wa ma tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.